L'alimentation est l'un des domaines où se pose de façon aiguë et quotidienne la question des rapports de l'humain avec le vivant, et particulièrement avec l'animal. Or, il y a eu, dans les dernières décennies, des changements dans la façon dont nous considérons les animaux qui se traduisent par des représentations et des problématisations nouvelles de la consommation carnée. Il y a quelques décennies, la viande était un aliment signe de vie et d'énergie. Hein, et pour être réputée consommable, il suffisait qu'elle soit économique ou pas trop grasse. Aujourd'hui, pour bien des mangeurs, il faut des justifications additionnelles à cette consommation. Et cela sans compter ceux pour qui la viande est désormais du côté de l'immangeable. Je sais que vous êtes plusieurs ici pour qui c'est le cas. De nouveaux pôles de légitimité s'établissent. Il y a tout un travail de l'imaginaire social qui recodifie le domaine du comestible. Il est assez courant de réfléchir à ces phénomènes par le biais d'une sociologie, en invoquant par exemple des mouvements d'opinion, des tendances générationnelles, hein, la génération Y ou je ne sais trop. Mais on peut poser la question d'un point de vue anthropologique, ethnologique ou ethnocritique, et c'est ce que j'entends faire ici. De ce point de vue, c'est toute la dimension du symbolique qui est ici en jeu. Ce registre de conceptualisation, qui nous permet de comprendre le monde, d'y mettre des catégories, de le rendre intelligible. Ce symbolique est donc non pas à entendre comme ce qui ne serait qu'idéologique ou faux. Il évolue selon les sociétés, les groupes, les individus. Il tisse la trame de nos visions du monde, construit les façons dont nous appréhendons le réel. Je voudrais donc me demander aujourd'hui comment fonctionnent certains des mécanismes cognitivo-culturels, appelons-les comme ça, par lesquels la viande devient ou pas comestible. Voici la petite trajectoire que je nous propose. Je ne crois pas avoir à vous convaincre que nous vivons dans une idéologie carniste, d'autant plus puissante qu'elle demeure implicite, dotée de la force de l'évidence non questionnée. Mais en même temps, dans toutes les sociétés, même les plus carnophiles ou carnivores, la consommation de viande est problématisée. Elle fait l'objet de prescriptions, de restrictions, de valorisations ou d'interdits. Bref, elle est au cœur d'une constante négociation. Cette négociation peut souvent être pensée comme une évidence, hein, voire rester occultée, surtout dans nos sociétés modernes où l'on envisage les prescriptions de consommation comme si elles relevaient de paramètres objectifs qui n'auraient rien à voir avec un quelconque régime éthique. Alors, ce serait l'hygiène, la santé, l'empreinte écologique, la commodité ou le goût qui dicterait les choix carnés. Or, ces prescriptions tiennent en fait à des représentations et à des visions du monde. Elles sont des constructions symboliques dont le sens va bien au-delà des explications réductionnistes. C'est que, malgré pourquoi au fond tout ce travail de problématisation et de construction du sens, hein, c'est que malgré son acceptabilité, largement répandue, il faut le reconnaître, la consommation de viande garde un potentiel mortifère, lié à la violence qu'elle implique, forcément, à l'encontre d'un animal. Il y a donc de ce fait tout un travail de la viande qui consiste à gérer, pour permettre de digérer, cette violence. Alors, les techniques et les rituels d'abattage, la boucherie, l'emballage, la cuisine et les savoirs particuliers qu'elle implique, et finalement, les modes de consommation, sont autant de modalités de ce travail. Et on voit bien alors que celui-ci, bien qu'il porte sur la viande elle-même, est d'abord et avant tout immatériel. Il permet de faire transiter les représentations, transforme l'animal en nourriture, l'immangeable en comestible. Alors, dans un modèle classique, Claude Lévi-Strauss a théorisé le fonctionnement des catégories anthropologiques de l'alimentation humaine. Son triangle culinaire, que vous connaissez certainement, comporte trois entrées ou trois états de l'aliment, le cru, le cuit et le pourri. Alors, le cru est un pôle non transformé, le cuit implique une transformation par le feu ou par la fumée, et le pourri implique une transformation par l'eau. Le triangle est traversé lui-même par une verticale qui recouperait d'autres catégories de l'imaginaire, le feu et l'eau, le masculin et le féminin, la culture et la nature, et l'exocuisine ou l'endocuisine, donc la cuisine pour autrui ou la cuisine familiale. Alors, au sein de ce triangle, chaque groupe culturel établit ses préférences propres, mais de façon principielle, selon Lévi-Strauss, hein, aucun aliment n'est réputé apte à être consommé s'il s'indexe uniquement sur l'un de ses pôles. Et donc, dans la logique structuraliste, tout est toujours question d'équilibrage, de rapport entre des termes. Donc, dans l'imaginaire carniste occidental, on comprend bien comment la viande peut devenir mangeable. Un steak cru devient comestible dans la mesure où son statut est modulé par le pourri, d'une part, parce qu'il y a un faisandage, un vieillissement, une découpe de la viande, et par le cuit, par exemple le rôtissage. On comprend donc que ce sont les trajectoires sur les axes de cet angle qui peuvent représenter des mécanismes de symbolisation qui, pour tel ou tel groupe humain, rendent les aliments comestibles. Et on peut symboliser aussi les différents types de travail de la viande opérés dans ce cadre par des techniques culinaires variées. Mais si l'on considère le triangle culinaire au sein du système alimentaire dans son ensemble, l'un de ces traits saute aux yeux vraiment, et c'est à la suite des travaux de Jonathan Hope qu'au fond je me suis interrogée sur la question. Ce triangle concerne uniquement des aliments, sans impliquer ceux qui les consomment. Alors, on a bien l'imaginaire du genre sexuel qui est impliqué en creux hein, lorsqu'on parle de pôle masculin ou féminin de chaque côté de l'axe, mais le mangeur, au fond, reste le grand absent de ce modèle. Et il est clair que l'aliment est ici un objet dont le statut symbolique est manipulé par le mangeur sujet. Celui-ci est invisible mais tout-puissant au sein d'un paradigme qui lui confère sa position centrale, mais de manière impensée et implicite qui la rend d'autant plus puissante. Le triangle culinaire, de ce point de vue, ne fait que formaliser de façon explicite la logique spéciste que l'on trouve dans un grand nombre de modèles dans le domaine. Alors, on peut penser aux guides alimentaires, qui sont des schémas rationalistes de classement évaluatif des aliments et dont le mangeur est bizarrement absent. Jusqu'à très récemment, le guide alimentaire du Canada faisait la liste des portions d'aliments regroupées par famille qu'il fallait consommer pour avoir une bonne alimentation. Et donc, la logique de l'aliment-objet et du mangeur-sujet s'incarne parfaitement dans ce modèle. Or, cette manière de représenter l'alimentation, et particulièrement la consommation d'animaux doués de sentience, semble en voie de changer, et ce, me semble-t-il, non seulement chez les véganes, mais dans des représentations beaucoup plus répandues. Alors, les paramètres selon lesquels on se représente la consommation de viande, le travail symbolique que cela requiert, me semble être en évolution. Un révélateur de ce changement de paradigme concerne justement l'évolution des guides alimentaires. Alors, dans les dernières années, on a vu apparaître dans certaines des formules les, disons, les plus novatrices, mais encore très conservatrices, cet acteur incontournable, le mangeur, souvent présenté comme une silhouette qui vient ici faire de l'exercice. Ici, vous avez le guide alimentaire français. De ce point de vue, le guide alimentaire brésilien, qui lui a été produit en 2014, est vraiment inspirant et on souhaite que le nouveau guide alimentaire canadien attendu sous peu s'en inspire. Hein. Ce guide est fondé sur une série de principes, sur bien sûr des conseils sur la manière de produire, d'acheter, de cuisiner et de consommer les aliments. Mais il y a aussi une série de conseils qui sont au nombre de 10, pardon, voilà. Développez, pratiquez, partagez et appréciez votre talent à préparer les repas et à cuisiner. Mangez avec d'autres lorsque c'est possible. Soyez critique à l'endroit des publicités concernant les produits alimentaires. Et donc ici, j'ai extrait ceux qui sont les plus proches d'une présence explicite du mangeur, hein, mais on comprend bien que l'aliment, qu'il soit issu de l'animal ou du végétal, est envisagé selon l'interrelation que le mangeur entretient avec lui, avec les autres mangeurs et avec les acteurs du système dans son ensemble. Donc, l'alimentation n'est pas une liste, mais pourrait-on dire un écosystème où chaque terme se définit et trouve son sens relativement aux autres. Alors, comment dans ce nouveau paradigme s'effectue le travail symbolique autour de la viande? Peut-être qu'un nouveau modèle émerge ici aussi et qui inclurait cette présence du mangeur et de l'acte de manger. En tout cas, on peut le croire, me semble-t-il, quand on examine des représentations issues du discours social, de la publicité, des productions médiatiques ou des œuvres du domaine esthétique, qui sont nombreuses à exposer ce nouveau travail de l'imaginaire, ces problématisations inédites autour de la consommation carnée. Alors, je vais présenter rapidement deux représentations contrastées qui vont en ce sens, me semble-t-il. Je commence par une représentation carniste qui, dans le contexte contemporain, paraît éminemment légitime. C'est comme si tout le monde s'entendrait sur le fait que, ah oui, dans ce cas-là, on a le droit de manger de la viande, ou en tout cas, une grande partie de la population, même ceux qui peut-être n'en consomment pas. Donc, Joséphine Bacon raconte dans le prologue de son recueil de poèmes « Un thé dans la toundra », une chasse aux caribous traditionnelle dans la communauté Innu. Elle est amenée en expédition par un aîné grand chasseur, Ishkuatushishep, et sa femme Maïna. En route, il voit, et je cite, « des panaches de caribous accrochés à la cime des épinettes. C'est un rituel destiné à ce que les caribous reviennent, nous dit-on, et destiné, je cite encore, à montrer notre respect au maître du caribou, Atikunapeu ou Papa Kasiku. » Dans la toundra, donc, Ishkuatushishep localise un groupe de 6 caribous. Les chasseurs attendent leur venue. Bon, le vieux chasseur sait exactement ce qu'il faut faire et quand ils vont arriver. Et le chasseur aîné va abattre la plus jeune bête seulement elle d'ailleurs, pour que les aînés en visite, parce que ça se passe lors de rencontres de tous les groupes innus, pour que les aînés en visite puissent manger de la viande tendre. C'est comme ça qu'il dit les choses. Et Joséphine Bacon dit « Il n'a tiré que sur le jeûne et l'a aussitôt dépecé et vidé. » Et la viande non faisandée sera immédiatement cuisinée avec des gestes qui sont décrits ici, mis en relief par des phrases dépouillées, décrivant des gestes simples, présentés comme liés à un savoir séculaire. Hein. Maïna avait allumé un feu. Elle coupait des tranches de caribou sur une grosse roche. Elle a pris une petite chaudière noircie par la suie et l'a remplie d'eau. Elle a jeté des sachets de thé dans l'eau. Elle a suspendu l'anse de la chaudière à un bâton planté en diagonale dans le sol, au-dessus du feu. Elle a fait cuire le caribou. Elle savait que le thé serait prêt au même moment que la viande. Avec la chaudière, elle a arrosé de thé les tranches de caribou dans le poêlon. Mon plus beau festin. Donc, vous voyez la simplicité de la syntaxe au point d'être répétitive, mais qui est tout à fait assumée, je crois, quand on lit la poésie de Joséphine Bacon, on voit que ça n'est pas accidentel. Hein? Donc, il y a ici un caractère hiératique, presque au moment de consommation de la viande. Et le thé aussi m'intéresse, il aide à cuire le caribou, mais au point de vue symbolique, hein, leur mélange semble opérer une synthèse qui, au-delà de la cuisson, équilibre la présentation, rend la viande comestible, marque la rencontre entre la nature et de la culture, très certainement. Cette consommation alimentaire, donc à l'occasion de laquelle les mangeurs, et je cite encore, « rendent grâce au maître du caribou », se clôt par un rituel. Après le repas, Maïna m'a demandé d'aller chercher une pierre que je devrais déposer sur la roche où elle avait tranché le caribou. Ainsi, chaque fois qu'elle reviendrait à cet endroit, cette pierre allait signifier ma présence. Encore là, un geste tout à fait hiératique, ritualisé. Les gestes codifiés pointent vers un temps de longue durée et cyclique où le caribou chassé, si l'on est reconnaissant envers lui, va revenir. De plus, les objets sont imprégnés de présence. Hein. La roche qui a servi à trancher signifie l'humain, ou enfin la roche qu'on a mise sur celle qui a servi à trancher, signifie l'humain dans une sorte de vitalisme panthéiste qui configure lui aussi une temporalité de longue durée. Alors, comme je le disais tantôt, une telle représentation apparaît dans les termes de l'imaginaire actuel éminemment recevable. Hein? Mais il me semble qu'il y a beaucoup de travail symbolique qui s'effectue ici et qui montre que, pour nous, mangeurs contemporains, il ne suffit plus de dire que la viande est économique, nutritive ou faible en gras. Hein. Elle est problématique. Il faut alors, dans ce cadre-ci, qu'elle participe à un écosystème, qu'elle soit dotée des propriétés d'un sujet sensible et que le mangeur ingère en la consommant du sens, de la tradition, de la culture, voire du territoire. Hein. Dans un registre qui semble à l'opposé de cette représentation, on retrouve un travail symbolique au fond, très similaire. Alors, vous le connaissez, doté d'une forte présence médiatique, hein, le chef cuisinier Martin Picard incarne une consommation festive, voire pantagruélique. Son restaurant au pied de cochon est reconnu pour ses plats emblématiques, dont la poutine au foie gras, et pour l'utilisation systématique du porc. Le physique du chef lui-même est à l'image de cet excès. Il est obèse et se présente comme un gourmand, voire comme un outre-mangeur incapable de résister à la bonne chair. Or, dans le cadre de cette représentation de carnisme décomplexé, voire agressif, le travail symbolique de la viande se révèle très puissant. L'imaginaire s'active à plein pour légitimer la consommation de viande. Et l'un des thèmes récurrents de l'émission « Un chef à la cabane » concerne les porcs élevés sur place. On expose les conditions de vie de ces cochons heureux, leurs installations, leur alimentation spéciale. On les nourrit avec des arachides pour donner bon goût à leur gras. Leur préparation culinaire aussi, où sont employées, selon les vieux dictons, toutes les parties de l'animal. Alors, se combinent ici les paramètres d'une sorte d'humanisme animal, on met des guillemets bien sûr, du locavorisme, de l'absence de gaspillage, le tout sur le fond d'un imaginaire de la symbiose où les déchets alimentaires de la cabane servent à nourrir les porcs qui, à leur tour, viennent nourrir les humains. Alors, tout se passe comme si ces paramètres d'un discours réitéré équilibraient la consommation excessive ou à tout le moins en diminuaient suffisamment les méfaits pour l'autoriser. De plus, au sein de cette représentation, la persona du chef porte des significations importantes. En fait, je ne vais pas y arriver tout de suite, pardon. Picard incarne une figure de l'excès. Il se représente d'ailleurs lui-même en cochon, Ce qui nous met sur une piste, celle du carnaval. Il présiderait en fait à un carnaval moderne dont il est le bonhomme ou le roi. Et sa persona agirait comme une incarnation des limites, figurant à la fois l'appel des pulsions carnivores et mettant en garde contre le potentiel destructeur de leur libération violente, indiquant donc pour le mangeur ordinaire la nature forcément exceptionnelle de cette consommation. Chez Bacon comme chez Picard, le problème de la viande se résout, que ce soit par le rituel ou par le festif, dans des récits qui tentent de surmonter les tensions entre le mort et le vivant, entre le présent, le passé et l'avenir, entre le mangeur et l'animal. Alors le caribou ou le porc deviennent des aliments réputés bons à manger à cause des valeurs qu'ils incarnent littéralement dans leur chair, parce qu'on leur confère une forme de présence qui est une agentivité, et dans le récit à tout le moins, et qui en fait des sujets dans le cycle alimentaire. Corollairement, la position même du mangeur se modifie, il n'est plus dans une extériorité surplombante, invisible et tout-puissant, mais participe désormais à cet écosystème. En somme, dans ce nouveau travail des représentations, des récits et des problématisations que suscite le carnisme, nous serions en train de passer du triangle culinaire au cercle de vie qu'on associe volontiers aux cultures autochtones, un système donc qui se fonde sur la relation symbiotique et durable qu'entretiennent le mangeur et le mangé. Alors, évidemment, le temps va montrer quel sera le résultat de cette activité symbolique, hein, et nous dira si elle sert de discours paravent pour justifier une idéologie ou devient au contraire un cheval de Troie venant miner le carnisme de l'intérieur. L'évolution des imaginaires ne se répercute pas nécessairement ou pas immédiatement dans les pratiques, dans des changements effectifs dans les comportements, mais cette évolution des imaginaires est une condition nécessaire pour que ces changements surviennent. Elle peut les provoquer, les soutenir et les accompagner. Merci.